Bonjour. Elles sont plus de 600 en France, elles assurent un maillage territorial exceptionnel. Présentes dans le cœur de nos villes, dans les banlieues, dans les zones rurales, dans les vallées les plus enclavées de montagne, en métropole comme outre-mer, elles sont les outils de la communication citoyenne, les vecteurs de la communication sociale de proximité.
La semaine de la presse et des médias à l'école, lancée en 1989 par le ministère de l'Éducation nationale sous le pilotage du CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, marque donc cette année sa 22e édition. La précédente avait mobilisé plus de 4 500 000 élèves, plus de 330 000 enseignants dans près de 17 000 établissements scolaires.
L'action vise à mettre en partenariat les écoles et les médias afin de développer chez les élèves une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information. L'éducation aux médias a d'ailleurs une place grandissante dans les objectifs généraux du système éducatif.
1885 médias participent à cette édition 2011, parmi eux autour de 280 radios associatives. Le syndicat national des radios libres, qui est un partenaire fidèle depuis longtemps de cette semaine de la presse, a lancé cette année le pari de réaliser une émission construite par des élèves et leurs écoles associées à la radio de leur territoire. 20 radios, donc 20 écoles. Des centaines d'élèves de 5 à 18 ans répartis sur 15 régions différentes. Voilà ce que nous vous proposons de retrouver sur les ondes de votre radio locale.
Dans cette émission, nous irons à Guichen, en Bretagne, avec Radio Laser. Du Lot-et-Garonne, par Radio 4, viendront des voix de Villeréal. La voix du Bern, à Pau, nous rapprochera des Pyrénées.
Direction Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, représenté par PFM, nous retrouverons Radio Dieu à Saint-Étienne. De Bourgogne, nous goûterons le millésime préparé par Bac FM à Nevers.
Venant de la région de Montargis dans le Loiret, ce seront les voix de Radio Chalette. Après un passage à Ciel-Guillaume en Sarthe avec Fréquency et puis une remontée vers le nord, nous descendrons vers Aubenas sur Info RC. Nous finirons ce Tour de France à Joinville en Haute-Marne avec Active Radio.
Bonjour à la Bretagne. Nous commençons avec Radio Laser à Guichen où les élèves du collège ont rencontré un auteur haïtien.
Bonjour à tous, nous sommes des élèves du collège Noël Dufaille de Guichen en Bretagne et nous passons à la radio dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Nous allons interviewer Louis-Philippe d'Alembert, auteur haïtien, et nous voulons lui poser quelques questions à son sujet. On va commencer par vous poser des questions sur votre vie. Il semble que vous avez été dans plusieurs pays, combien parlez-vous de langues et lesquelles ?
Disons couramment 6, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, le portugais, et puis le créole bien entendu. Et puis après je baragouine d'autres langues comme l'allemand ou bien l'hébreu, mais bon, essentiellement 6 on va dire.
Sur internet nous avons lu que l'on vous surnommait l'âme tortue, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi vous surnomme-t-on ainsi ?
En fait, je ne sais plus qui a balancé ça, c'est peut-être parce qu'un jour j'ai dit que je suis comme une tortue, je voyage avec ma maison sur le dos parce que j'ai effectivement vécu dans plusieurs pays.
Nous allons maintenant vous parler de la jeunesse haïtienne. Le système scolaire est-il le même qu'en France ?
Malheureusement non, parce que 85 à 90% des écoles en Haïti sont privées. Donc normalement dans la constitution haïtienne, l'école est obligatoire, mais ce n'est pas spécifié que c'est pris en charge par l'État. C'est d'ailleurs entre autres ce que je dis dans mon dernier roman Noir blessure, même si ça se déroule pas en Haïti, ça se déroule en Afrique. Mais c'est le cas d'un enfant qui se retrouve pris dans un système scolaire qui est en grande partie privatisé et dont les parents ne peuvent pas payer la scolarité. Il est obligé d'arrêter en cours de route.
Maintenant, on va vous poser quelques questions sur le tremblement de terre. Étiez-vous à Haïti lors du tremblement de terre ?
Oui, j'y étais avant, et pendant et après.
Que pouvez-vous nous conseiller comme bande dessinée ou roman de jeunesse à découvrir ?
La bande dessinée, je suis plutôt un fan. Pour l'instant, j'irai quand même sur les classiques, hein, sur les Tintins, sur les Astérix, que je lis et relis. Quand j'arrive dans un pays où je n'ai pas de lecture, je prends toujours ces bandes dessinées-là en langue étrangère.
Merci Louis-Philippe d'Alembert.
Nous nous rendons maintenant en Lot-et-Garonne pour croiser les ondes de Radio 4 qui nous transmettent des entretiens dans l'atelier radio du cours préparatoire de l'école René Descartes à Villeneuve-sur-Lot.
Comment des enfants de 7 ans construisent-ils leur savoir ? Extrait d'un des entretiens libres à l'atelier radio de l'école Descartes à Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. À partir de cette matière, un nouveau débat avec la maîtresse mettra de l'ordre dans les idées.
Pour manger, il faut tuer du mouton, du lapin. Des fois, on peut tuer des lions pour manger du lion. Moi, des fois, mon papa, pour manger du canard, il en tue. Et puis, il a un fusil. Moi, et bien aussi, il y a une viande que j'aime bien, elle s'appelle le magret.
C'est du magret de canard, Yoni.
Papy, il est chasseur et pêcheur, il peut, avec son chien, il sent la nourriture, avec le fusil, il peut tuer des animaux.
À la pêche, un jour, moi, j'ai attrapé un poisson 10 mètres ou 20 mètres et mon papa, il a pêché un brochet.
C'est quoi un brochet, Maëlle?
C'est un poisson qui est très, très, très long et qui mange des petits poissons. Et il a des grandes dents.
Ça fait peur, ce truc que tu nous... ce qu'il a dit, Maëlle, ça fait peur.
C'est presque comme un roquet, Maëlle.
Pour se nourrir aussi, des fois, on met des limaces pour pêcher des grenouilles. Et après, on tue la grenouille pour garder les cuisses de grenouilles et on les fait cuire.
Quand on est rentré avec rien, on dit qu'on est rentré grenouille.
Quand ils ont remporté rien, ça veut dire qu'ils sont rentrés bredouilles.
Et puis moi, j'ai déjà pêché un brochet, une anguille et un silure.
À la cantine, on avait mangé une fois de la purée des carottes et avait Annick, elle a dit que ça faisait grandir.
Et moi, je ne sais pas comment les aliments font grandir. Je comprends rien comment ils font.
Moi, je ne sais pas non plus.
Moi, je pense qu'ils sont un peu comme nous, ils grandissent.
Pour grandir, il faut manger de la soupe et des légumes.
On mange des concombres.
Ils vont dans les tuyaux qu'on a dans le ventre.
Eh bien, les aliments, en fait, ça fait grandir puisqu'il n'y a pas de sucre. Et en fait, il n'y a que de la vitamine dedans. Alors, c'est pour ça qu'on grandit avec les vitamines.
Pour découvrir le carnaval béarnais, faisons confiance aux élèves de CE1, CE2 de l'école Sainte-Élisabeth d'Igou sur la voie du Béarn à Pau.
Il y a 3 jours de cela, nous avons fêté carnaval à l'école Sainte-Élisabeth d'Igou. Nous sommes partis de l'école déguisés en personnages traditionnels du carnaval béarnais pour juger Saint Pansard sur la place du village. Le jugement a été sans appel. Saint Pansard a été condamné à être brûlé dans la cour de l'école. En effet, il a été jugé coupable pour tous les faits qui lui ont été reprochés.
Mais au fait, d'où vient ce personnage légendaire et indispensable au carnaval béarnais?
En exclusivité mondiale, nous avons obtenu l'interview exceptionnelle de Saint Pansard en personne juste avant qu'il ne reparte en montagne.
Kessou you l'oreille de la reste. Oui, c'est moi le roi de la fête.
Oui, nous le savons. C'est grâce à vous que nous fêtons carnaval tous les ans, mais quelle est votre histoire?
Chaque année, j'arrive en ville et je deviens le véritable roi de la fête et de la débauche. Après une lutte acharnée aux portes de la ville, j'obtiens les clés et je m'installe pour une dizaine de jours. Malheureusement, au bout d'un moment, les gens ne veulent plus de moi. Je suis alors jugé et on m'accuse de tous les maux de la terre. C'est injuste. Grâce à moi, les hommes, les femmes et enfants ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et en remerciement, ils me jugent et me brûlent.
Parce que vous n'avez pas la conscience tranquille.
Je n'ai pas peur de la justice des hommes. Je suis une véritable légende. Un personnage qui donne tout son sens à carnaval. Ma femme Carougne et moi sommes vos parfaits boucs émissaires. Car vous n'assumez pas vos fautes. Est-ce que vous, les élèves de l'école Sainte-Élisabeth, vous écoutez vos maîtres et maîtresses?
Oui, mais pas toujours.
C'est pas ma faute par hasard, hein, tant que vous y êtes?
Non, bien sûr.
Alors tout est dit. Je repars dans mes montagnes. Mais prenez garde, je reviendrai l'année prochaine. Préparez-vous.
Oui, très bien, Majesté.
C'était donc l'interview en exclusivité mondiale de Sa Majesté Sapinsa.
L'actualité chaude mobilise l'attention des jeunes. À Arras, avec PFM, les élèves du lycée Baudimont analysent la situation en Libye.
Dans le cadre de la semaine de la presse, nous allons traiter d'un sujet sur les révoltes libyennes.
Depuis le 1er septembre 1969, Muammar Kadhafi est au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il porte le titre de guide de la révolution. En 1997, il réorganise les institutions politiques de la Libye. Théoriquement gouverné selon un système de démocratie directe, il renonce lui-même au poste officiel de chef de l'État, tout en demeurant dans les faits aux commandes de la Libye.
En février 2011, à la suite des révolutions et mouvements de protestation dans le monde arabe, il doit faire face à une révolution populaire, qu'il tente de réprimer par des tirs de balles réelles et des bombardements aériens sur la population.
Nous avons donc réalisé un micro-trottoir dans les rues d'Arras, afin d'interroger plusieurs personnes pour connaître leur opinion sur l'attitude de Kadhafi envers les insurgés.
C'était sûr que ça allait péter un jour ou l'autre. Hein. C'était comme c'est où, Tunisie aussi qui a eu des trucs.
Donc c'est un criminel pour moi, donc voilà, il faut qu'il parte.
Son attitude, c'est une attitude qui est pas bien, quoi. Le peuple commence à se réveiller.
Bah écoutez, moi je pense que c'est pas très logique. Il devrait écouter un petit peu son peuple. Voilà.
Mais je trouve que c'est inhumain. Inhumain ce qu'il fait. C'est sauvage.
Et donc que pensez-vous de ces révolutions ?
Bah que si elles ont été faites, c'est parce qu'elles avaient une certaine utilité à mon avis. Et donc elles seront sûrement positives pour le monde de demain.
Bah c'est bien, mais bon, maintenant il faudrait que ça se calme quand même, parce que ça fait beaucoup de mal déjà au tourisme, parce que les gens, ça va être la période de partir en vacances, et c'est vrai que c'est pas évident pour les vacances, tout ça, et puis pour le peuple, tous les morts qu'il y a avec cette guerre.
Je trouve que y en a beaucoup qui se mêlent de ça, parce qu'il y a le pétrole en Côte d'Ivoire, et il y a personne qui bouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a rien là-bas. Ouais, donc voilà quoi, d'accord. Les gens ils s'entretuent, ils se battent à la hache, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, il y a un président qui ne veut pas sortir, il n'y a personne qui dit rien. Et là, la Libye, tout le monde veut sa part du gâteau.
À l'heure actuelle, la situation a évolué. Suite au Conseil de sécurité des Nations Unies du 18 mars, des mesures ont été prises pour protéger la population libyenne. Ces mesures consistent à forcer Kadhafi à cesser toute attaque contre les civils, mettre fin à l'avancée de ses troupes sur Benghazi et les retirer des autres provinces, rétablir l'approvisionnement en eau, électricité et gaz, et autoriser la population libyenne à recevoir l'aide humanitaire. Ainsi, plusieurs pays dont les États-Unis et la France bombardent les sites stratégiques libyens dans le but de faire partir Muammar Kadhafi.
Ils sont tout jeunes, ils sont élèves en grande section à l'école maternelle Claude Chab à Saint-Étienne. Ils nous livrent avec Radio Dio les news de l'école.
Radio Chab.
Bonjour, je m'appelle Camille.
Bonjour, je m'appelle Sheima.
Bonjour, je m'appelle Ibrahim.
Bonjour, je m'appelle Elliot.
Dans la classe de Marie, aujourd'hui, ils font la pâte à crêpes. Et demain, ils mangeront les crêpes.
Dans la classe d'Odile, vendredi, Marie-Pierre aura donné une bande numérique qui va jusqu'à 12, mais ils savent pas pourquoi.
Dans la classe de Nathalie, ils ont un nouveau coin pour écouter des histoires avec un casque.
Dans la classe de Béatrice, on a fêté l'anniversaire de Lucas, de Adarkan et de Camille.
Dans la classe de Dil, ils ont un calendrier à vendre et aussi la devinette dans leur calendrier, c'est qui a les oreilles pointues. Moi, c'est déjà deviné. À vous de jouer.
Dans la classe d'Odile, C'est la fête d'Odile tout de suite. Et bonne fête, Odile.
Dans la classe de Martine, ils ont une nouvelle camarade qui s'appelle Feriel. Lundi, c'est le dernier jour d'Amel. Elle va déménager et elle va aller dans une autre école.
Dans notre classe, il faut bien s'habiller parce qu'il fait froid dehors.
On a un invité, c'est Zoïs qui va nous dire des devinettes.
C'est clair, mais je ne suis pas une lampe.
Au revoir, c'était Ibrahim sur Radio Chap.
Au revoir, c'était Sheima sur Radio Chap.
Au revoir, c'était Camille sur Radio Chap.
Au revoir, c'était Radio Chap et sur Elliot.
Dans un tout autre registre, Bac FM et les lycéens de Nevers ont décidé de centrer leur attention sur le métier de journaliste.
Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1. À l'occasion de la semaine de la presse et des médias, nous recevons deux journalistes de France 3 Bourgogne. Régis Guillon, qui est journaliste reporter d'images, et Gérald Tessier, qui est journaliste rédacteur.
Dans un premier temps, nous aurions aimé savoir comment choisissez-vous les sujets de reportage.
Il faut avoir le sens de l'information, c'est-à-dire que parfois on a des choix à faire et comme on ne peut pas tout couvrir, on va d'abord s'intéresser à ce qui nous semble prioritaire, à une dimension régionale. Après, l'actualité peut s'imposer à nous, hein. Un fait divers par exemple, important, on n'a pas le choix, hein. on donne l'information, il faut y aller.
Moi je prolongerai ce que tu dis, c'est que la question première qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui va intéresser le téléspectateur, de quoi les gens parlent, qu'est-ce qui entre en résonance avec leurs préoccupations. On va toujours faire un choix de sujet par rapport à son opportunité dans l'actualité du moment.
Oui.
Et après, bien entendu, il y a l'aspect régional qui va rentrer en ligne de compte. Il y a aussi ce qui va nous sembler plus plaisant à tourner, avec un contenu en image un petit peu plus fort, parce que la télévision, c'est quand même de l'image. Donc, s'il n'y a aucune image à tourner ou rien d'intéressant, on va peut-être repousser le reportage. Et puis aussi, après, il y a des contraintes qui sont beaucoup plus basiques. C'est, est-ce que c'est loin? Est-ce qu'on a le temps d'y aller? Est-ce que les interlocuteurs sont disponibles, des choses aussi basiques que ça. Mais je trouve le numéro un, c'est quand même l'intérêt du téléspectateur et la prise avec l'actualité du moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bac FM 106.1. La semaine de la presse se poursuit sur notre antenne. Aujourd'hui, à mes côtés, Alain Haye, journaliste au Nevers Sam Bott.
Bonjour Jérémy.
Quelle est votre vision d'un journaliste? Qu'est-ce qu'un journaliste?
Un journaliste, c'est un vulgarisateur, c'est une courroie de transmission, en fait, entre des décideurs, des technocrates et un public. Et son public, c'est effectivement ses lecteurs, en fait. C'est un humain comme un autre, il a ses ressentis, il a ses émotions, il a son côté subjectif, bien sûr, il a ses préférences, ses affinités. Les journalistes sont tous différents, c'est ce qui fait d'ailleurs la diversité, la qualité de la presse française.
On entend souvent qu'un journaliste se doit d'être objectif. Où est l'objectivité, finalement?
Un journaliste doit être objectif dans les faits qu'il raconte. Il doit les décrire de la meilleure façon qu'il soit, avec un langage qui soit accessible à tout le monde. Et là, il se doit d'être objectif.
Chalette, avec des élèves du collège du Chinchon de Montargis, nous fait découvrir le salon du livre de la ville.
Bonjour et bienvenue sur Radio Chalette dans le magazine culturel. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, j'ai le plaisir de recevoir des élèves de 4e B du collège du Chinchon à Montargis. Alors Lucas, Ryan, Clémentine, Caroline, Aïna, Charlotte et Agathe, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous intervenez aujourd'hui sur notre antenne pour nous parler du Salon du Livre du Montargois.
En effet, celui-ci s'est déroulé du 24 au 27 mars au complexe sportif du Château Blanc à Villemandeur. Cette édition était un peu particulière cette année puisqu'il s'agissait des 20 ans de la manifestation. Les organisateurs, essentiellement des bénévoles, nous avaient concocté un certain nombre de surprises pour l'occasion, n'est-ce pas Charlotte?
Oui, les organisateurs ont pensé à une nocturne.
Samedi 26 mars, François Lhôpitau a attiré à ses lectures de nombreux curieux. Le tout complété par un journal du salon réalisé par des scolaires et une classe de découverte. Bien entendu, de nombreux auteurs jeunesse se sont prêtés au jeu des dédicaces sur les différents stands.
Justement à propos des auteurs de jeunesse, Lucas et Caroline vont maintenant nous parler de ceux qui ont été reçus au Collège du Chinchon. Ils ont été reçus au CDI.
Les sixièmes ont accueilli Yael Hassan, une auteure très prolifique autour des thèmes de la différence et des générations. Le sympathique personnage de Momo, petit prince des bleuets, a fait l'unanimité.
Les troisièmes se sont entretenus avec Rachel Hausvater lors d'un café littéraire. Les élèves avaient choisi leur passage préféré pour en débattre avec l'auteur, autour d'un thé et de petits gâteaux. Le divorce, la crise d'adolescence, des sujets qui n'ont pas coupé l'appétit au troisième.
Je vous propose maintenant de faire un focus sur Sarah Cohen-Scali, reçue par les trois classes de quatrième du collège. Je passe maintenant la parole à Agathe et Ryan.
Un petit bravo tout d'abord à deux élèves de 4e A, Guillemette et Célia, qui ont gagné le deuxième prix de la nouvelle collège 4e-3e. Elles ont reçu leur prix des mains de Sarah Cohen-Scali sur le salon. Un vrai moment de gloire sous les flashs des journalistes et des parents.
Oui, à propos de cette auteure, il faut savoir qu'elle a d'abord suivi des études de lettres, licenciée de philosophie, elle a également suivi une formation de comédienne. Une vingtaine de livres ont été publiés.
Les collégiens s'étaient activement préparés à cette rencontre en lisant un recueil de nouvelles fantastiques, Mauvais délire. Sarah Cohen-Scali a même été interviewée par les élèves. On écoute un extrait de cette rencontre. Sarah Cohen-Scali nous y présente ses dernières publications.
Le dernier, c'est Gueule de loup, qui est un roman policier paru aux éditions de l'Archipel. Il y a également une anthologie de nouvelles ayant pour thème les vampires, les dents de la nuit. C'est un vrai travail, l'écriture. C'est pas un passe-temps, c'est pas un loisir. L'imagination est un point de départ. On a des idées après qu'il faut structurer, qu'il faut développer de manière à tisser la trame d'un roman. Et ça se fait au quotidien.
Voilà, c'était Sarah Cohen-Scali. Merci à tous d'être venus sur Radio Chalette nous présenter cette 20e édition du Salon du Livre du Montargois et à très bientôt.
Les lycéens de la cité scolaire Paul Scarron de Sillé-le-Guillaume dans la Sarthe nous font connaître à Fréquencillé le Parlement jeune de pays.
Depuis une dizaine d'années, les conseils de développement des pays permettent l'expression de la société civile, l'expression des citoyens sur les enjeux de territoire.
Celui du pays de Haute-Sarthe a choisi de prolonger un travail de consultation et de concertation entrepris lors des débats sur l'agenda 21 régional avec les jeunes il y a 3 ans en lançant l'idée d'un Parlement jeune de pays.
Au micro de Chanice, Sarah, Julie, Tristan et Pierre, élèves en première au lycée de Sillé-le-Guillaume, Lionel Goyer, président du conseil de développement du pays de Haute-Sarthe, nous en dit plus.
Qu'est-ce que le Parlement des jeunes du pays de Haute-Sarthe ?
Donc le Parlement des jeunes du pays de la Haute-Sarthe, c'est une assemblée qui permet de mettre en réseau donc un certain nombre de jeunes issus de lycées, de collèges, de milieux professionnels, jeunes créateurs et autres, et qui leur permet de réfléchir et de faire des propositions sur notamment sur leur avenir et sur l'enjeu du territoire.
Quel est son but précis ?
C'est d'abord d'encourager la prise de la parole au niveau des jeunes, hein, donc, et puis d'avoir un regard donc positif sur le territoire de la part des jeunes également, et puis de favoriser le décloisonnement social et générationnel, également de faire émerger des actions de développement et d'aménagement du territoire.
Il peut y participer.
Tous les jeunes du pays de la Haute-Sarthe, de 14 à 26 ans, des jeunes lycéens, des jeunes collégiens, des jeunes créateurs d'entreprises, des jeunes en insertion, des jeunes chômeurs, demandeurs d'emploi.
Quels sont les projets à venir ?
Projet à venir, c'est le Parlement jeune donc du 12 mai. En ouverture, on a prévu donc normalement Monsieur Martin Hirsch. Hein, donc un atelier donc où les jeunes auront à réfléchir sur être et devenir un citoyen élu. En deuxième atelier, être et devenir un citoyen à travers une activité professionnelle. Donc comme témoin, c'est les jeunes en formation à la MFR de Fier. Un troisième atelier, être et devenir un citoyen en tant que bénévole associatif. Et puis donc un quatrième atelier, être et devenir un citoyen à l'international, avec comme témoin Maud Chaperon, qui est une ancienne élève du lycée de Sillé. On aura une pause de déjeuner, et après cette pause de déjeuner, un débat radiophonique avec l'ensemble du territoire, donc ceux qui seront connectés, que ce soit structure scolaire ou individuelle. Et donc pour terminer, une conférence de presse avec donc une restitution des travaux.
Le basket féminin à ses supporters. Les lycéens d'Arras ont enquêté avec PFM.
Dans le cadre de la semaine de la presse, en collaboration avec le lycée Baudimont, je propose un sujet de reportage sur un supporter du club de basket Arras Pays d'Artois. Ce club féminin, basé à Arras, fait partie des meilleurs clubs de France et même d'Europe. Il est remonté en LFB, Ligue féminine de basket, en 2006. La saison 2009-2010 a été une année exceptionnelle pour les basketteuses, puisqu'elles ont terminé le championnat à la 3ème place, ce qui leur a permis de participer à l'Eurocoupe. Arras possède dans son équipe de grandes joueuses comme Jo Gomis, Marielle Amand, Olivia Malachenko et Leilani Mitchell. Arras évolue à la salle Tételin devant 1500 spectateurs en moyenne. Un public arrasois qui, paraît-il, est le meilleur public de France, d'après notre fidèle supporter Clément qui répond à mes questions.
Nous sommes avec Clément qui fait partie des Atrées Basques, le groupe des supporters d'Arras Pays d'Artois. Bonjour Clément.
Bonjour.
Depuis quand supportez-vous le club ?
Je supporte le club depuis qu'elles sont en NF2, donc ça fait à peu près 7-8 ans que je suis le club.
Vous avez donc effectué par exemple les déplacements cette année en Russie ou en Allemagne ou en Italie ?
J'ai été en Italie, j'ai été en Allemagne, j'essaye de faire un maximum de déplacements, que ce soit en Europe ou en France. Et après en Europe, j'aurais bien aimé aller en Russie, mais bon, financièrement, c'était pas forcément possible.
On dit qu'Arras possède le meilleur public de France. Qu'est-ce qui forge cette réussite ?
C'est déjà le fait que le club, c'est un club familial depuis qu'ils sont en NF2, même depuis bien longtemps, et qui souhaite toujours rester familial. Donc on a toujours une proximité avec les joueuses, avec le staff, etc. Et ça crée un certain engouement. Moi qui, comme je vois pas mal de salles en France, c'est vrai que c'est très rare de voir un tel engouement au basket féminin. Et puis après, il faut voir aussi qu'à Arras, on est quand même le seul sport de haut niveau et le seul sport qui bouge sur Arras. Et donc c'est sûr que ça aide un peu.
Et pour finir, quelle est votre joueuse préférée ?
C'est une question piège. J'ai pas vraiment de joueuse préférée. Je les aime chacune, que ce soit au niveau du jeu ou que ce soit en relation humaine. Enfin, on a vraiment une très bonne équipe et une équipe vraiment très sympa.
Merci.
C'était Clément, supporter du club de basket féminin Arras Pays d'Artois. Un reportage de Quentin dans le cadre de la semaine de la presse en collaboration avec le lycée Baudimont.
La radio, ça sert aussi à faire connaître ce qui se passe sur le territoire. Des collégiens de Benas annoncent une manifestation.
Rubrique locale. Paul et Tom, élèves en 6e au collège Roca de Benas, en Ardèche, vous présentent un sujet sur l'environnement.
La deuxième édition de Cultivons nos assiettes. C'est la seconde édition du Festival alimentaire. Il est mis en place par les étudiants BTGPN. Qui veut dire Gestion et protection de la nature. Il se déroulera dimanche 27 mars à partir de 10h au lycée Olivier de Serres.
À 11h30, vous pourrez y voir un atelier de découverte de plantes bio qui nous montreront la qualité des sols. Michel Parmentier animera une conférence débat dès 15h, le thème agrocarburant. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront aller à la rencontre des producteurs installés dans des stands. L'entrée est gratuite.
Enfin, nous allons à Joinville, en Haute-Marne, où Active Radio a permis à des élèves de l'Assomption de Saint-Dizier d'informer sur l'environnement.
Nous allons parler d'environnement avec Madame Céline Lanceau, conseillère à l'espace Info-Énergie de Saint-Dizier. Madame Lanceau, pouvez-vous nous présenter l'espace Info-Énergie ?
Donc en fait, l'espace Info-Énergie, c'est harmonisé par l'ADEME. C'est-à-dire qu'il y en a, on est 400 conseillers Info-Énergie en France, on est 8 en Champagne-Ardenne, on est 2 à Haute-Marne. C'est l'ADEME qui organise tout ça, qui fusionne, qui fait qu'on a les mêmes infos, les infos officielles, qu'on a tout le matériel qu'il faut, qui finance une partie de nos postes à tous. Mais on s'appuie en plus sur une structure déjà existante. À Saint-Dizier, on s'appuie sur l'ARCAD, l'Agence Régionale de la Construction et d'Aménagement Durable, qui se veut moteur du changement climatique et de l'environnement. Donc je me suis posée dans leurs locaux, avec leurs services communication, avec leurs services qui me semblent bien pratiques. Alors concrètement, on est gratuit, on est proche de chez vous et on est neutre. C'est-à-dire qu'on vous donne des conseils au niveau énergétique. Notamment, on peut aussi vous conseiller pour les transports, pour l'eau, etc. Mais on est quand même beaucoup basé énergétique. Il y a de la documentation papier autant que vous voulez, il y a des conseils de qualité. Par contre, on ne prend pas de décision à votre place, on est neutre. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire allez voir tel couvreur pour du photovoltaïque, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je vous donne des listes et je vous donne tous les conseils pour vous aider à choisir. Je peux aussi vous aider à faire des études, ce qu'on appelle les études thermiques. Donc pas un DPE, pas un diagnostic de performance énergétique légale, mais une première étude qui vous aide à voir si votre maison c'est quand même une passoire ou si finalement c'est pas mal et qu'est-ce qu'il faut rajouter, en combien de centimètres. On chiffre ça en économie à l'euro près et ça permet d'avoir une bonne vision des choses.
En matière de construction, de nouvelles normes seront mises en place en 2012. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, on parle de réglementation thermique. Donc dans le langage courant, on parle de RT 2005. Donc c'est la base qui sert pour les architectes, pour les maîtres d'ouvrage, pour les maîtres d'œuvre, pour construire une maison. Enfin, pour le particulier, une maison, bien sûr, pour les tertiaires, etc., ou les collectivités, c'est beaucoup plus gros. Mais c'est la norme technique dans le bâtiment. À savoir qu'il y en a une nouvelle qui va sortir en 2012, qui va être très exigeante au niveau énergétique. Forcément, la France a pris des engagements à Kyoto, plus ou moins à Copenhague, elle a pris des engagements pour diminuer les effets de serre et consommation de CO2. Donc cette norme, elle est très attendue aussi par les personnes qui ont envie de construire dans le durable. Et comme c'est 2012 et comme le bâtiment, ça prend du temps, c'est vrai que c'est pas encore officiel, mais les premiers jets, les premiers articles, les architectes et les plus performants essaient déjà de s'en inspirer.
Je vous remercie.
Cette émission Les radios associatives dans la semaine de la presse et des médias à l'école 2011 se termine. Nous espérons vous avoir fait passer un agréable moment à l'écoute de toutes ces jeunes voix citoyennes venues de 20 radios et de 15 régions françaises.
Ce programme a été réalisé avec le concours de Radio Laser,
Radio 4,
La Voix du Béarn,
Radio Audio,
Bac FM,
Radio Chalette,
Fréquence Sillée,
PFM,
Info RC,
Active Radio,
Radio Galère,
Radio Cactus,
Radio Bocage,
Radio Mono,
RPL,
Radio Alpes-Mancelles,
RNB,
D4B,
Radio MDM.
La coordination technique et le montage final ont été assurés par Fréquence Sillée et les lycéens de Ciel-Poulon.
Parmi eux, nos remerciements particuliers à Aline, Idaline, Laurine, Mathilde et Sarah de Terminal L. C'était une production du Syndicat National des Radios Libres dans le cadre de la Semaine Nationale de la Presse et des Médias à l'École 2011.